Radio Kati, Grand Témoin. Pilote de ligne, opérateur économique et fondateur de la compagnie aérienne EOA Bora Airways, Stavros Papayoannou est aujourd'hui l'invité de Grand Témoin. Stavros Papayoannou, soyez le bienvenu.
Oui, merci, bonjour.
Comment allez-vous ?
Pour le moment, ça va.
Vous êtes fondateur de plusieurs entreprises dans plusieurs secteurs ici en RDC. Nous en parlerons au cours de cet entretien. Vous êtes de nationalité congolaise, mais d'origine grecque. Qu'est-ce qui vous pousse à adopter la nationalité congolaise au moment où certains Congolais pensent l'inverse ?
D'abord, je suis natif d'ici. Mon pays natal, c'est le Congo. Donc, de toute façon, ça, je ne serais pas changé. Mon pays natal, c'est le Congo. Et puis, bon, chacun a ses propres raisons d'appartenir au pays où il veut. Moi, j'ai mes propres raisons. Mes racines sont ici. Je ne vois pas la raison pour laquelle j'irai ailleurs. Mes racines sont ici, c'est tout.
Vous naissez au Congo en quelle année et dans quelle ville ?
Moi, je suis né en 1956 à Likasi. Mon père est né à Bukama. Ma mère aussi est née à Kasenga.
Dans le Katanga.
Toujours dans le Katanga. Et le premier membre de la famille, donc notre oncle lointain, est arrivé en 1904 lors de l'état indépendant du Congo. Il était parti d'ailleurs à pied de Beira jusqu'à Elisabethville à l'époque, qui lui avait fallu 4 mois à pied pour y arriver. C'était un pionnier, oui.
Quel souvenir vous gardez de votre jeunesse ?
Un peu comme tout le monde, hein. Nous avons tous eu une jeunesse que nous regrettons à certains moments, parce que c'est l'âge que nous regrettons, mais bon, il ne faut pas rester nostalgique. Bon, c'est passé, et chaque âge a ses charmes, hein. Même les petits cheveux blancs, ils ont aussi leur charme.
Est-il possible d'avoir un souvenir de jeunesse qui vous a marqué le plus ?
Dans ma jeunesse, j'aimais beaucoup la chasse. Mmh. Malheureusement, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui un braconnier. J'étais un grand braconnier. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai complètement changé. Et c'est la protection de la nature plutôt qui m'intéresse.
Vous faites votre cycle complet des humanités à l'école privée à programme belge de l'ICACI. C'est quelle école et quelle option ?
J'étais en scientifique. Scientifique B. École privée à programme belge.
Parlez-nous de vos études primaires.
Primaires ? Oh là là. Vous êtes toujours la même école, oui. Toujours la même école, j'ai gardé toujours la même école, on a commencé par là, même en gardienne, les maternelles, tout a été à l'école privée à programme belge, jusqu'à la fin de mes études, et après je suis parti donc en Belgique.
Nous allons en parler dans les instants qui suivent. Citez-nous quelques noms d'amis d'enfance, des copains de jeux d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
Alfred Hussein, par exemple, Daniel Capaille, voilà, par exemple. Non, il y en a plein d'autres, mais bon, si jamais je cite ceux-là, c'est ceux qui sont ici qui pourront se reconnaître.
Le pionnier de votre famille est arrivé en 1904 et votre famille a une vocation des affaires. Parlez-nous un peu de cette vocation.
Bon, disons que mes parents aussi, ils sont comme moi aussi, c'est-à-dire pour eux, ils se sentent aussi congolais. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'eux, ils ont été ruinés en 1973 avec la dérégulation. Ils ont eu un coup très dur. Et en réalité, ils s'en sont jamais remis. Mais bon, eux aussi se sentent tout à fait congolais.
Vous poursuivez vos études en obtenant un gradué en informatique à l'université de Charleroi en Belgique. Ensuite, vous obtenez une maîtrise en droit aérien et une autre en technique aéronautique. De l'informatique, qu'est-ce qui vous attire à l'aéronautique ?
C'est-à-dire que à l'ICACI, j'avais déjà d'abord démarré dans le génie civil et j'avais des chantiers qui se trouvaient à Luena. Luena, c'est environ à 300 km de l'ICACI et dont l'accès par route était assez difficile. Et pour pouvoir y accéder, j'avais d'abord acheté un petit avion. Nous sommes maintenant en 1983. J'ai acheté un petit avion, un monomoteur, pour pouvoir aller voir mes chantiers de Luena. Et j'ai été pris par le virus de l'aviation. Ça m'a beaucoup plu. J'ai acheté ensuite un second avion. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais eu des demandes d'affrètement de taxis aériens. Ça commençait à prendre de l'ampleur, à tel point que j'ai trouvé un créneau, j'ai trouvé que c'était un métier qui était intéressant. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans l'aviation. Je suis parti au Canada pour aller faire mes études maintenant de pilote de ligne. Et c'est ainsi que tout a démarré.
Ici au pays, vous vous illustrez plusieurs fois dans la création des compagnies aériennes. De 89 à 93, vous fondez Chabert. Vous êtes président du comité de gestion de Congo Airlines, puis EOA Bora Airways actuellement. Mais pourquoi ces sociétés font-elles souvent faillite ? Est-ce vous qui les gérez mal ou c'est le milieu économique qui ne s'y prête pas ?
Bon, de tout cela, d'abord, il n'y en a aucune qui a été en faillite. Disons que Chabert a été en liquidation tout simplement par les actionnaires, alors que moi je n'étais pas actionnaire déjà dans la société. Moi j'avais quitté Chabert en 1993 et Chabert a fermé ses portes, je crois, aux alentours de 95, deux ans après. Mais déjà, je ne faisais plus partie de la gestion de cette société. Moi j'étais déjà dans la société ici de Zaire Express. Qui, Zaire Express, est devenu Congo Airlines. Mais Congo Airlines n'est jamais tombé en faillite. Congo Airlines a été liquidé tout simplement pour pouvoir créer une nouvelle société. Congo Airlines était une SARL et nous avons décidé de créer une SARL avec des autres partenaires pour pouvoir voir plus grand. Parce qu'à l'époque, la volonté du musée était de créer une société qui avait une vocation internationale. Or, Congo Airlines était tout à fait régionale. Le vol qu'il faisait, c'est l'Afrique du Sud. Mais le musée voulait absolument que nous fassions une compagnie qui puisse arriver jusqu'en Belgique, jusqu'en Europe. D'où la création maintenant d'une nouvelle société. Bon, mais ça n'a rien à voir avec une faillite quelconque, ou bien tout simplement c'était ça.
Nous le disons tout à l'heure, vous avez une maîtrise en droit aérien et une autre en technique aéronautique. Nous allons aborder l'aspect lié à l'entretien des avions ici en RDC. En principe, un avion doit faire un check-in, c'est-à-dire un contrôle après un certain nombre de vols. Mais ici en RDC, l'entretien des avions se fait lorsqu'il y a disponibilité. Je vous invite à suivre ce témoignage d'un mécanicien d'une compagnie aérienne de la place.
Normalement, l'avion doit rentrer toujours en entretien. Après quelques vols, l'avion rentre au hangar pour la maintenance. Bon, ça dépend, parce que nous ici, quand nous avons un jour de repos, par exemple les lundis, il y a d'autres avions qui ne volent pas. Bon, on regarde s'il est sur le report, tous les défauts que les commandants ont écrits, les défauts qu'ils ont trouvés en vol, on les amène en terre et nous les effectuons en cherchant les procédures, la maintenance. Les entretiens des avions. Quand nous avons la disponibilité de l'avion au hangar, on ne les laisse pas comme ça, on regarde. S'il y a des problèmes, on les résout.
Réaction, Stavros.
Bon, il n'a rien eu de mal. Je comprends un peu le fait qu'un profane peut dire que lorsqu'il y a disponibilité, ce qui veut dire le mécanicien qui a témoigné devant vous, c'est-à-dire que lorsque l'avion est disponible, c'est-à-dire que lorsque l'avion est au sol, eh bien, il y a des programmations de certains travaux dessus. Et ça, c'est le travail de l'engineering. C'est l'engineering et le planning qui vont planifier les différents travaux à faire lorsque l'avion est disponible. Disponible, ça veut dire qu'il est au sol. L'avion ne vole pas tous les jours, et dans les horaires que nous faisons de l'avion, il y a un jour à deux jours par semaine, qui sont programmés à rester au sol. Comme il vous a parlé, il vous a dit que le lundi, c'est le jour où ces avions-là sont au sol. Ben, quand les avions sont au sol, eh bien, nous profitons, l'engineering profite pour faire certains travaux dans les avions. C'est ça que ça veut dire.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Stavros Papayoannou, vous êtes pilote de ligne, opérateur économique et fondateur de la compagnie aérienne Eobora Airways. On dit souvent des avions congolais, africains de manière générale d'ailleurs, que ce sont des cercueils volants. Et vous, au niveau de Eobora, quelles sont les précautions que vous prenez dans ce sens?
Écoutez, bon, c'est vrai que on nous dit que les avions congolais, les avions africains en général sont des cercueils volants, etc. Bon, disons qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Je m'y oppose complètement d'ailleurs, parce que si nous prenons les statistiques des accidents qu'il y a ici, nous allons nous rendre compte que les 90% des accidents qui ont lieu, ce sont des accidents qu'on appelle sans perte de contrôle. Qu'est-ce que ça veut dire un accident sans perte de contrôle? C'est-à-dire que l'avion, il est sain, il vole bien, mais il y a eu une erreur humaine, et cette erreur humaine a amené l'accident. Donc on n'a pas perdu, il n'y a pas eu un problème technique pour perdre le contrôle de l'avion. Ce sont des erreurs humaines. 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Alors de là de dire que ce sont des cercueils volants, je dirais que c'est un peu que c'est complètement erroné. Au contraire, nous aurons dit plutôt que il y a beaucoup de problèmes de facteurs humains qui doivent être certainement revus. Ça, c'est sûr. Mais le facteur humain, ce n'est pas nécessairement le pilote. ça peut être aussi et souvent l'opérateur lui-même. Prenez le cas d'un 727. Un 727 ne peut pas décoller au-dessus d'un point. Il peut prendre, par exemple, vous avez des 727 qui opèrent ici, on nous dit des super 727, dont la charge maximale qu'il peut prendre est de 24 tonnes. Lorsque cet avion-là décolle avec 31 tonnes, bon, et que si jamais, au moment du décollage, il perd un moteur, et que à cause de la surcharge, il ne tient pas la route, parce que en principe, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Lorsque, si jamais il était dans ses poids, même si jamais il perdait un moteur, l'avion doit pouvoir venir et réatterrir en toute sécurité. Mais lorsque l'opérateur surcharge cet avion, des fois à l'insu même du pilote, et que l'avion connaît un incident et qu'il vient à s'écraser, est-ce que c'est la faute de l'avion ? Est-ce que c'est un cercueil volant ? C'est pas l'avion qui est en tort. Ici, il y a eu une cascade d'erreurs humaines qui sont, voire criminelles.
En 2007, sur 136 crashs dans le monde, la RDC en a connu 8 à elle seule. Et l'on se souvient l'année passée, en 2008, du crash d'un avion de Ewabor à votre compagnie à Goma. Est-ce les victimes ont été indemnisées ? Tout est fini dans cette affaire ?
Il y a deux volets dans votre question. D'abord, vous avez dit qu'il y avait eu 8 accidents ici chez nous. Les 8 premiers accidents que vous avez parlé, c'était toujours des accidents des avions de type soviétique, aujourd'hui qui ne sont plus là. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas mettre ça sur le dos des avions soviétiques. Il faut mettre le dos sur le dos toujours des opérateurs qui, eux, ont surchargé à chaque fois l'avion. Donc, le dernier que nous avons connu, l'Antonov qui avait fait l'accident ici autour de Kinshasa, c'était un Antonov qui a été surchargé, il a perdu une hélice, il a perdu un moteur. En principe, si jamais il n'y avait aucun problème de surcharge, l'avion aurait pu venir et atterrir en toute sécurité. En ce qui concerne chez Ewabor, j'aimerais bien utiliser le nom de écrasement et pas de crash. Le crash c'est américain, et écrasement c'est un peu plus français.
Le français, voilà.
Alors, en ce qui nous concerne, nous avons connu un incident, un accident à Goma au moment du décollage. En fait, en passagers que nous avons connus là-dedans, nous avons connu 4 passagers qui ont été décédés. Les autres, ce sont des gens au sol qui ont décédé. En principe, il n'aurait dû y avoir aucun accident. Il n'aurait dû y avoir aucun décès. Si je devais y en avoir peut-être une ou deux victimes. Pourquoi ? Parce qu'au moment de l'impact, au moment de l'accident, notre personnel de cabine a été à la hauteur. Ils ont évacué tous les passagers en moins de 2 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? À ce moment-là, il y a eu tous les badauds et les curieux qui sont venus et se sont jetés sur l'avion. D'autres par curiosité, mais d'autres pour piller. Il se fait qu'à ce moment-là, les réservoirs se sont éventrés, ils ont commencé à prendre feu et ils ont explosé. Au moment de l'explosion, soit 7 minutes après l'impact, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été touchées. D'autres mortellement, une quarantaine environ, mortellement, et d'autres brûlés à des degrés divers. En principe, il n'aurait pas dû y avoir toutes ces victimes, parce que l'autorité aurait dû d'abord établir un cordon de sécurité autour de l'accident, comme ça se passe ailleurs, pour justement permettre aux gens d'évacuer et de les protéger en cas d'accident. Mais il se fait que ce jour-là, puisque vous en parlez, la MONUC avait des camions anti-incendie. Et elle a refusé de nous assister pour la bonne raison de dire qu'elle n'avait pas reçu le OK de Kinshasa. Certaines personnes qualifient cela de non-assistance des personnes en danger. Cette affaire se trouve devant les cours de tribunaux et nous les allons laisser la justice trancher là-dessus.
Certes, si on pose la question à la MONUC à cet effet, elle aura aussi sa ligne de défense et un point de vue qui n'est pas nécessairement celui que vous avancez. Laissons donc la justice faire son travail. Et en ce qui concerne l'indemnisation...
Alors l'indemnisation là-dedans, j'ai eu des contacts avec la SONAS qui nous a dit qu'ils étaient en voie de rembourser les gens. Le problème qu'il y a eu aussi, je ne peux pas trop non plus en vouloir à la SONAS parce que il y a eu beaucoup de listes qui ont été faites des victimes, des fausses victimes qui ont été mises là-dedans, des gens qui ont voulu profiter et qui ont créé une très grande confusion dans les victimes. Parce que bon, nous, en tant que victimes, nous connaissions les 4 passagers, mais pour les gens ensemble, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que sur les mêmes tombes, par exemple, il y avait 3 à 4 noms différents. Il y a 3 à 4 personnes qui se présentaient en disant que c'était mon oncle, c'était mon fils, c'était mon frère. Et c'était chaque fois des 3 à 4 noms différents par personne. Vous voyez ? Et ça crée des gros problèmes d'identification des victimes.
Vous êtes un pilote de ligne qualifié en HS-748, BAC-111, Boeing-727, Boeing-707 et DC-10. Comment améliorer la situation de l'aéronautique en RDC ?
Écoutez, d'abord, nous sommes dans une très bonne voie. Vous avez tous suivi que l'Union européenne a mis le Congo en liste noire. Alors, si nous avons été placés sur liste noire, c'est parce que nous avions des grandes lacunes, d'abord, au point de vue de notre administration. La loi sur l'aviation est très obsolète. Bon, ce n'est pas propre au Congo. Je peux dire que les 80% des pays africains n'ont pas renouvelé et ne sont pas à jour au point de vue de la loi et rien qui est, parce que l'aviation a évolué. L'aviation a évolué, les mesures de sécurité aussi. Et malheureusement, la plupart des pays ne sont pas, n'ont pas mis à jour leur loi là-dessus. Au Congo, c'est ça qui a été reproché en disant, vous n'êtes pas à jour. En fait, notre aviation aujourd'hui obéit aux lois des années 50. Or, évidemment, tout cela a évolué. Et maintenant, nous sommes en voie de changer. Il y a un projet de loi qui va passer maintenant au Parlement et qui va tout changer. Thank you.
Papa Yohannou, pilote de ligne, opérateur économique et fondateur de la compagnie aérienne Ewabora Airways, vous vous êtes lancé aussi dans plusieurs secteurs. En dehors des compagnies aériennes, vous avez aussi créé la société zaïroise de transport et de génie civil en sigle SOSA Tragesi entre Luena et Colusi. Le transport, c'est aussi un autre grand problème en RDC. Comment le résoudre, à votre avis?
C'est vrai que c'est un problème, mais bon, je pense que c'est justement une des préoccupations du gouvernement, puisqu'il fait partie des 5 chantiers, si je me trompe. Donc, avant de commencer le transport, il faut d'abord des routes. Comment est-ce que nous pouvons aujourd'hui nous permettre de faire du transport si nous n'avons pas les routes? Commençons d'abord par les routes. Et avant de commencer les routes, d'abord les aéroports. Regardez par exemple l'aéroport de Goma, de Lubumbashi et tous les autres. Ils ne sont toujours pas conformes. Ils ne répondent pas aux normes, en principe, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
De 80 à 84, vous fondez Stavros Papayohannou, en sigle SP, une grande entreprise de transport à Likassi. Vous fondez aussi la société de production et d'exploitation Kinesperel, en sigle SPE. De 85 à 88, vous fondez une briqueterie moderne à Likassi. La RDC a encore des problèmes de construction et d'urbanisation. Comment les résoudre?
Ben d'abord, de permettre d'aider les grandes industries. Le pays ici ne fait strictement rien pour aider les investissements. Regardez, par exemple, aujourd'hui, nous avons des grands problèmes de cimenterie. La première chose à faire aurait été de donner tout ce qu'il fallait pour non seulement aider les cimenteries actuelles, mais aussi de permettre la construction d'autres. Mais si jamais il y a des investisseurs qui se présentent aujourd'hui pour dire, voilà, nous voulons construire une nouvelle cimenterie, les problèmes qui vont s'offrir à eux seront tels que c'est impossible de pouvoir y aller. Nous avons par exemple le cours des investissements de la NAPI qui est tout à fait insuffisant. Je pourrais dire même qu'il est médiocre si jamais nous devons compter les aides que doit apporter un gouvernement pour faire des investissements. Aujourd'hui, l'aide à l'industrie est quasiment inexistante. Nous n'avons jamais vu un ministre de l'industrie défendre son industrie. Nous sommes dans l'industrie aéronautique. Pas une seule fois, le ministre de l'industrie ne s'est préoccupé des problèmes que nous traversons. Et ça, c'est un problème. Les ministres vivent cloisonnés et ils ne viennent pas à proximité de voir un peu ce qui se passe. C'est ça le grand problème.
De 82 à 87, vous fondez l'entreprise d'exploitation forestière de la Lufira en sigle ex-Lufor. Aujourd'hui, le monde est en proie à la crise financière. Que doit faire la RDC à cet effet?
Mais c'est ce qui est étonnant. Le monde entier est dans une crise très forte, comme vous le dites, excessivement forte. Et nous n'avons vu aucune mesure d'accompagnement ou du gouvernement pour nous aider, pour aider son industrie. Si jamais son industrie n'est pas aidée, comment est-ce que nous pourrons nous développer? C'est pas possible. Il y a une contradiction de ce côté-là.
Nous tendons vers la fin de cette émission. Je vous invite à suivre ce témoignage de quelqu'un qui vous connaît et que nous avons déjà au téléphone pour vous.
Je suis M. Ram, je suis honorable député. Lors de ça, je suis directeur de Ewabora à Lubumbashi.
Qu'est-ce que vous retenez de la personnalité de M. Stavros?
C'est difficile à dire parce que c'est beaucoup de choses que je retiens de lui. Parce que ça fait plus de 25 ans que je travaille avec lui. Je connais beaucoup de choses de lui. Mais tout ce que je peux dire en bref, c'est que c'est un gars dans chaque initiative, dans chaque entreprise où il est engagé. Il est très tenace. Il est tenace parce qu'il tient beaucoup aux résultats final. À chaque entreprise. Et ça, j'ai toujours apprécié chez lui, parce que finalement, ça vous donne des résultats escomptés, et non pas des histoires éphémères.
Pouvez-vous nous raconter une petite anecdote vécue ensemble?
Ah, difficile, hein? Difficile, une anecdote vécue ensemble? Non, mais je retiens que les monsieur, il a beaucoup de choses à la manière congolaise, hein? Par exemple, quand nous étions à Chabert, à la Loano, les messieurs venaient, ils se mettaient sur un béton, par terre, il mangeait les arachides préparées à l'eau par les petites congolaises, il mangeait les maïs préparés par les petites congolaises qui vendaient sur la route. Et lui achetait ça, et il mangeait devant le bureau, devant ses travailleurs, et ça c'est original. Hein. Il s'aimait vraiment au côté, tout près du Congolais, se mettant lui-même à la place du Congolais. Et ça me va droit au cœur, que je n'oublierai jamais.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Il est un peu trop impulsif. Hein. Mais lui, il s'énerve vite. Il prend vite, il s'anime vite dans la colère. C'est la seule chose négative, en fait, que je retiens de lui. Évidemment, il a beaucoup de qualités, mais toute personne a des qualités, des défauts. Et ça, c'est le petit défaut que je retiens chez lui.
Pour clôturer ce petit entretien, pouvez-vous lui adresser un petit message?
Je lui souhaite bon courage, qu'il ne se décourage pas. Je sais qu'il est en train de faire plus d'une génération au Congo, dans l'entreprise active. Alors, ce que je peux lui conseiller, c'est de ne pas se décourager, parce que parfois, on me donne l'impression de ne pas le comprendre par l'autorité de l'État, qui ne le comprend pas, qui ne l'aide pas à pouvoir continuer à investir dans ce pays.
Réaction à Tavros Papayohannou, je vous ai vu plusieurs fois rire et sourire. Comment vous réagissez au propos de l'honorable Vano Kiboko?
Bon, disons qu'il a été très gentil lorsqu'il dit que je n'ai qu'un seul défaut, alors que je suis bourré de défauts, qui dit qu'il n'y a que le d'impulsif. Je crois qu'il a été, il était très tendre vis-à-vis de moi.
Et vous vous reconnaissez dans ce tableau qui peint de vous?
Bon, c'est une facette, hein, c'est une facette là-dedans. Bon, vous savez, moi je n'ai pas à me juger, c'est les autres qui jugent, hein, c'est difficile de se juger. Mais c'est vrai que, la seule chose que je peux dire, c'est vrai que je regrette que le gouvernement ne se donne pas assez de peine de pouvoir se pencher sur les problèmes des malades que nous sommes, parce que notre industrie, toute l'industrie aujourd'hui est malade, et le gouvernement ne réagit pas.
Yeah.
allons clôturer cette émission. Un message à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment.
Je dois leur dire simplement qu'ils doivent être fiers d'être Congolais. Le problème, il faut savoir, nous avons voyagé beaucoup. Nous avons été un peu partout. Ils doivent être fiers d'être Congolais et fiers de leurs ingénieurs aéronautiques congolais. Nous avons des ingénieurs aéronautiques congolais qui sont vraiment à la fierté partout où nous allons, dans tous les séminaires, dans toutes les rencontres avec Boeing, avec l'IATA et partout. Les nôtres, il n'y en a pas un seul qui a échoué. Ils terminent tous avec des très hauts points.
D'abord, Papa Yohano, merci d'être passé à Grand Témoin.
Je vous remercie.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Stavros Papayohannou, pilote de ligne, opérateur économique et fondateur de la compagnie aérienne Ewabora Airways. À la technique, Dieudonné Angassa, à la présentation, Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Likasi dans la province du Katanga et partout dans le monde.